le Proverbe 2, Proverbe chapitre 2. Le thème principal du livre des Proverbes, c'est quoi? On avait dit ça la semaine dernière, c'est la sagesse. Et je vais tout de suite lire ces versets. Et je vais vous demander de chercher quelles sont les conditions préalables à l'obtention de la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la sagesse? Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut. Le mot serait mieux traduit de saint conseil. C'est un autre mot, en fait, pour la sagesse. Il tient en réserve la sagesse pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent verset 15 des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère. Donc il y a la délivrance de l'homme et puis maintenant de la femme, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui oublie l'alliance de son Dieu. Ça parle de son mariage. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, elle ne retrouve les sentiers de la vie et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. En lisant ces deux derniers versets, nous pensons au psaume 1. Car Dieu connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et toujours ces deux. Enfin, et la dernière fois, nous avons parlé de cette métaphore de marcher, hein, sur le sentier ou sur la route ou sur le chemin de la sagesse, et que cela suggère que nous sommes actuellement quelque part, hein, sur une route, qui a des carrefours à gérer et qui a une destination finale. Et nous avons considéré ces deux sentiers. Il y a le sentier de la vie. Les caractéristiques de ce sentier, c'est un sentier de la joie, la droiture, la justice, l'équité. Il y a des hommes droits qui sont sur ce sentier. Elle offre la sécurité que Dieu seul peut donner et elle termine dans la vie. Puis, de l'autre côté, le sentier de la mort aussi. Et nous avons vu les différentes caractéristiques morales de ce sentier. Les gens qui empruntent ce sentier, le danger de ce sentier et puis la fin aussi de ce sentier. Et tout cela termine dans ce grand contraste que nous venons de lire au verset 21 et 22. Ok, cela nous amène dans où nous sommes aujourd'hui. On a fait, si vous voulez, beaucoup plus de travail dans le texte la semaine dernière pour pouvoir tirer aujourd'hui des conclusions. Et la première chose, si vous avez votre feuille avec vous, le point de départ, c'est que l'homme naturel est croix de sagesse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce trou? Voilà, je crois que je l'ai entendu, ou un synonyme. Il est dépourvu de sagesse. La relation de l'homme naturel à la sagesse, c'est qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas. C'est l'absence de la sagesse. Ça, juste en lisant rapidement, j'espère que c'est clair. Proverbe 22, verset 15, c'est une référence que vous pouvez noter, si vous voulez. Proverbe 22, 15, dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » Et nous étions tous des enfants. Hein. Qu'est-ce qui était attaché à nos cœurs en tant qu'enfants? Les proverbes disent, c'est pas la sagesse qui est attachée au cœur de l'enfant. Il faut juste permettre à l'enfant de pouvoir l'exprimer. Il y a des gens qui parlent un peu comme ça aujourd'hui. Hein. L'enfant est naturellement sage et il faut juste permettre à s'exprimer. Mais non, en fait, c'est la folie qui est attachée au cœur de l'adolescent. La folie est attachée au cœur de la jeune femme, du jeune homme. Et la folie peut continuer toute une vie. Et ce même verset dit « La verge de la correction l'éloignera de lui. » Il y a une autre traduction qui dit « Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. » Ils aiment ce qui est déraisonnable. C'est leur cœur. Leur cœur est vraiment attaché à ça. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes démontre l'importance de la discipline parentale. On voit dans toute l'attention que le proverbe donne. Vraiment, si vous êtes parents, les proverbes vont venir et revenir et redire et redire et redire que vous avez une grosse barre de responsabilité dans la discipline de vos enfants. Et toute l'attention donnée à la discipline démontre que la tendance naturelle de l'homme, de l'enfant et de l'homme, est de quoi? Est de dévier. Ça, c'est la tendance naturelle. On aimerait pouvoir le dire une fois, et puis, boum, ça reste sur les rails, jusqu'à la mort. Mais même en tant qu'adulte, ça ne marche pas comme ça. Je me rappelle la chaîne que j'ai eu un seul chien dans ma vie. On était mariés, enfin, elle est toujours vivante, elle est chez ma belle-mère. Et elle n'était pas propre. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, il y avait un ami dans l'église aux États-Unis qui m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et je ne vous dirai pas le technique, mais ça a marché. Dans une semaine, ça a marché. Et je n'ai plus eu de soucis après ça. Et elle m'obéissait, voilà. Et j'ai dit, c'est clair que les chiens n'ont pas une nature pécheresse. Si seulement les enfants étaient comme ça. Hein. Une semaine d'apprentissage et boum, c'est fait. Mais non, en fait, la folie est attachée à nos cœurs. Pas la sagesse. Et le péché est une folie. Il prend naissance dans le cœur et les enfants le possèdent dès leur naissance, et il ne faut pas penser des enfants, il faut penser à nous-mêmes. Hein. On le possédait dès notre naissance. Et la tristesse, c'est que les enfants indisciplinés, donc ils gardent cette folie, ils ont tendance à devenir des adultes indisciplinés aussi, pleins de cette folie. Ils deviennent donc un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Et si un enfant n'a jamais appris comment vivre dans les limites des règles de ses parents, il sera beaucoup plus susceptible, devenu adulte, de vouloir dépasser les limites de la loi morale de Dieu. Et à long terme, ces enfants paient un prix élevé pour la négligence de leurs parents. C'est triste, hein, on voit des enfants courir dans la rue, ici on dit « Mais qu'est-ce que fait l'État ?»
Mais ce n'est pas le rôle de l'État.
C'est le rôle des familles. C'est le rôle des parents. Et les proverbes nous en parlent beaucoup de cela. Le psaume 51, verset 7, c'est aussi une référence que vous pouvez marquer. Vous connaissez certainement ce verset. Psaume 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous pouvez aussi marquer Jean 3, 6. Pas 3, 16, mais 3, 6. Celui qui est né de la chair est... Quoi ? Chair. Et nous sommes tous nés de la chair, donc on est tous chair. Et puis regardez dans vos Bibles Proverbes 1, 22, puisque vous n'êtes pas loin. Proverbes 1, 22. Quelqu'un peut lire ce verset ? Allez, qui veut lire Proverbes 1, 22 ? Oui, derrière, Lydie. Voilà, donc selon ce verset, ce n'est pas simplement une question d'intellect ou de connaissance mentale. Quel est le problème ici ? Quel est le problème selon ce verset ? Est-ce qu'il dit le problème, c'est qu'ils ne sont pas éduqués ? Il faut plus d'éducation. Jusqu'à quand, stupide, quoi ? Aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se quoi ? Plairont-ils à la moquerie ? Et de l'autre côté, quand ça arrive à la science ou la sagesse, jusqu'à quand les insensés, quoi ? Haïront-ils ? C'est pas une question d'un manque d'information. Le problème se trouve au niveau de nos affections. On est d'accord ? Avec ces mots, aimer, se plaire et haïr, ça c'est nos affections. En fait, on aime la folie. On aime la folie. C'est pour ça qu'on peut être même dans une église en train d'écouter un message et notre cerveau est ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on nous force, on préfère être ailleurs. C'est une question de nos affections. Deuxième chose que nous pouvons dire comme fondation, c'est que la sagesse peut être librement acquise. Ça, c'est ce qui va dans le trou. Alors, j'ai mis pas automatiquement, comme nous allons voir. Mais elle peut être librement acquise. C'est-à-dire, elle n'est pas réservée pour une classe sociale ou pour certaines personnes spécifiques. Si vous lisez les appels de la sagesse, que nous n'allons pas faire aujourd'hui, vous allez voir que la dame folie, elle va dans les rues et elle crie. Mais après, la dame sagesse, qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Elle fait exactement la même chose. Elle va dans les rues et elle crie, elle dit « Venez à moi ! Venez-vous à moi !» Et donc la sagesse, elle n'est pas comme en haut d'une montagne, il faut aller très très loin la chercher. En fait, dans un sens, elle vient vers nous, elle crie vers nous, elle nous invite à venir. Donc, en lisant les proverbes et dans notre vie, il faut reconnaître ces deux choses. Je crois que c'est deux côtés de la même vérité. Nous n'avons pas automatiquement la sagesse. C'est pour ça que la Bible va dire ne te confie pas dans ta propre sagesse. Mais de l'autre côté, nous avons une sagesse qui nous est offerte. Mais cette sagesse n'est pas automatique. Et il y a au moins trois choses. Alors j'ai trouvé trois mots qui commencent tous avec la même lettre pour nous aider à les retenir. Parce que souvent, moi-même, je prépare quelque chose et puis plus tard, j'ai du mal à le retenir. Mais trois conditions préalables à l'obtention de la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la sagesse? Alors, regardez le verset 5 de Proverbe 2. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et la connaissance et l'intelligence sortent d'où? De sa bouche. Et encore le verset 7. Il tient en réserve donc de saints conseils ou le succès pour les hommes droits. Regardez le verset 10 aussi. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Vous voyez, elle vient de l'extérieur. Elle vient dans le cœur, mais elle n'est pas là naturellement. Elle vient dans le cœur. Le premier mot, c'est qu'il faut une révélation divine. C'est le mot révélation. Et le mot révélation veut dire, quand on révèle quelque chose, on enlève, littéralement, ça parle d'enlever le voile. Un voile qui est caché, on enlève le voile. Ou le mot hébreu parlait aussi d'enlever le couvercle. On enlève le couvercle. Il faut que Dieu enlève le voile, il faut que Dieu enlève le couvercle. Il faut que Dieu se démontre, il faut que Dieu se dévoile à l'homme et qu'il mette donc cette sagesse à la disposition de l'homme. Un texte, une référence que vous pouvez marquer, c'est Exode 31, 1 à 3. Je l'ai lu récemment, vous êtes peut-être en Exode là. Au début de l'année, mais l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Vous voyez, le choix de Dieu d'abord, il choisit quelqu'un, et puis Dieu le rend doué à faire son appel. Donc Dieu ne choisit pas selon les talents qu'un individu possède. On voit qu'il donne des talents pour faire face à son appel. Nous voyons avec Salomon. Salomon avait une grande sagesse, mais où est-ce qu'il l'a trouvée? La Bible est très claire là-dessus. Hein, vous pouvez marquer 1 Roi 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu lui a donné ces choses. Alors, comment est-ce que Dieu nous donne aussi la sagesse? Parce qu'il faut que nous recevons la sagesse. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 2 Timothée 3, 14 et 15. Quelqu'un peut nous lire ce texte? 2 Timothée 3, 14 et 15. Ok, Lydie, encore, merci Lydie. Heureusement qu'il y a Lydie. Voilà, c'est bon. Bon, ça c'est aussi un bon verset hein, qui suit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Voilà. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. Donc il va lui dire juste après, prêche donc la parole. Mais qu'est-ce qu'on a lu par rapport aux saintes lettres, aux saintes écritures que Timothée a eues même dans sa jeunesse? Les proverbes parlent souvent aux jeunes. Qu'est-ce qu'il a? Quel est le rôle des Saintes Écritures dans sa vie? Pardon?
Il a appris.
Il a appris, oui. Et mais que peuvent faire ces saintes écritures? Voilà, ça c'est la phrase importante hein, pour notre sujet. Les saintes écritures ou les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est-à-dire juste pour connaître le salut. Et il dit, Timothée, dès ton enfance, tu as connu ces saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc, la révélation dont nous avons besoin, dont Dieu se révèle, il se révèle où? Dans les saintes lettres. Et ces saintes lettres peuvent nous rendre sages à salut, même dans notre enfance. Quelle joie hein, de savoir pour nos jeunes qui sont là. Ils n'ont pas besoin d'avoir, je ne sais pas, un doctorat, un bac plus 5, quelque chose comme ça. Ils peuvent, dès leur enfance, recevoir des écritures, la sagesse nécessaire au salut. Il s'agit donc du privilège d'être exposé toute sa vie aux écritures. Peut-être que c'est un jeune ici où vous dites, je ne sais pas, un privilège d'aller au culte tous les dimanches, de faire le culte en famille, etc. C'est vrai que la responsabilité devient encore plus pesante, hein, parce qu'à qui Dieu donne beaucoup aussi, ils sont redevables envers Dieu pour toutes ces choses. Mais Timothée avait un avantage immense dans sa guerre contre le monde, et c'est qu'il connaissait les Écritures depuis son enfance. Et l'accent est implicitement mis sur l'avantage de connaître ces choses dès son plus jeune âge. Déjà, il a pu connaître la sagesse de Dieu. C'est le véritable héritage que les parents peuvent transmettre à leurs enfants. Et peut-être, vous êtes parents là et vous n'avez pas connu ça. D'accord, mais peut-être vous pouvez le donner. Vous pouvez le donner à vos enfants. Ou sinon, aider d'autres parents aussi à le donner. Le psaume 19, verset 8. Quelqu'un peut me citer ce verset? Je vous donne le commencement. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Psaume 19, verset 8. Il rend sage l'ignorant. Et puis un verset que j'aime beaucoup à cause de l'image que ça nous donne, c'est le psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ouais, très bien. La révélation de tes paroles est claire. Et le mot révélation, selon sa prononciation, et en lisant, on ne connaît pas la prononciation de l'hébreu, mais en fait, elle a deux sens possibles. Révélation ou entrée, l'entrée. Et donc le Darby et d'autres traductions aussi vont lire comme ça. L'entrée de tes paroles illumine. Alors pourquoi il y a ce même mot qui veut dire entrée et révélation? Eh bien, voici ce que j'ai trouvé dans un commentaire sur ce verset. Il dit entrée en hébreu et le mot patarch. Selon qu'il est prononcé, il peut signifier soit porte ou entrée, soit révélation. Et l'explication de cette double signification est que dans les premiers temps de la formation de la langue hébraïque, les Juifs étaient les Bédouins qui vivaient dans des tentes. La seule ouverture dans une tente était le volet de peau qui était la porte. Hein, donc, imaginez, ces tentes étaient... Il n'y avait pas de fenêtre. Et peau de chèvre, peau de brebis, peau de chameau, ça faisait des tentes, en fait, étaient toujours très sombres. Mais lorsque la porte était ouverte, la lumière entrait dans la tente, éclairant tout ce qui se trouvait à l'intérieur. L'auteur saisit cette image exactement quand il parle de l'entrée des paroles de Dieu donne la lumière. C'est comme si on a ouvert la porte. Notre pensée ténébreuse, nous vivons dans le noir. Hein, souvent cette image, hein, que les païens qui vivaient dans l'obscurité, etc. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et la lumière entre. Et c'est quoi cette porte? Bien, c'est la révélation de Dieu. C'est ça qui nous éclaire. Et donc Jésus dit en Jean 5, 39, aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. En fait, il dit que c'est vrai, hein, mais il dit ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc il faut une révélation. C'est le premier mot. Et puis, regardez ce verset, le deuxième mot, là, la lettre B. Quelque chose que nous voyons d'un pécheur, c'est qu'il veut vivre indépendamment de Dieu. On voit ça même dans les plus petits. Hein, je peux parler de Siméon parce qu'il ne sait pas que je parle de lui. Et déjà, à son bas âge, quand il a quelque chose dans la main, il veut le garder ou il veut le mettre sur la table lui-même. Je vais le prendre. Non, non. C'était cet esprit d'indépendance que nous avons. Que dit Ésaïe 53? Chacun suivait sa propre voie. Souvent, on veut faire quelque chose simplement parce que c'est notre voie. Alors, où commence la sagesse? Reculez d'un chapitre au Proverbe 1 et verset 7. C'est vraiment le commencement de la sagesse. C'est quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Tout de suite, il y a une certaine attitude envers un personnage spécifique. C'est-à-dire, la sagesse, il ne va pas être trouvé à droite ou à gauche. Le début de la sagesse, c'est une certaine perspective, on va dire ça comme ça, une certaine relation avec un personnage spécifique. Ce n'est pas simplement la crainte. Il ne dit pas la crainte, c'est le début de la sagesse. Non, c'est la crainte de l'Éternel. Vous êtes dans une certaine relation avec l'Éternel. Et c'est ça le mot que j'aimerais que vous mettiez dans le trou. Donc, il faut une révélation divine, mais il faut une relation personnelle. La sagesse vient par la relation. Le verset 5 dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras quoi? La connaissance de Dieu. Connaissance de quelqu'un suggère toujours une relation. Hein, si je connais Taylor, par exemple, c'est que quand même, on se parle quelque part. Je peux connaître des choses sur le président ou quelqu'un de l'histoire. Je peux dire, bon, je connais Napoléon, voilà. Mais c'est pas la même chose. Connaître quelqu'un présume une certaine relation avec cette personne. Et il dit, voilà, si tu fais ces choses, tu comprendras la crainte de l'Éternel, dont parle 1.7, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça, c'est la religion chrétienne aujourd'hui. Et c'était la vraie religion même sous l'Ancienne Alliance. On a ces deux pôles. Cette crainte de Dieu, respect pour Dieu, et l'intimité, c'est ça le mot? L'intimité aussi avec Dieu. Parce que je le connais. Je le connais et j'ai aussi la crainte pour Dieu. La crainte et la connaissance. Ça, c'est si vous voulez mettre en parenthèse les deux mots nécessaires là dans cette relation, c'est crainte et connaissance. Le verset 5, très important pour nous montrer ça. C'est la crainte de l'Éternel, une relation avec lui, une connaissance de l'Éternel aussi, une relation aussi avec lui. Le Proverbe 9, verset 10, je lis dans 2 21, dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » On a encore les deux choses ensemble. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Crainte et connaissance. Donc il dit à son fils, tu sais que tu auras trouvé la sagesse quand tu as une crainte de Dieu et quand tu as une connaissance de Dieu. Il faut une relation. Regardez le chapitre 3, vous n'y êtes pas loin. Qui veut lire les versets 7 et 8? Proverbes 3, 7 et 8. Oui, Laurent, merci. Voilà, 3, 7 et 8. Voilà. Donc, ne sois point sage à tes propres yeux, mais encore, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Et puis, détourne-toi du mal. C'est une relation avec un Dieu saint. Il faut une conversion. Un Thessalonicien parle du fait, ces Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Il faut se détourner du mal, il dit ici. Car la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, c'est de haïr le mal. Et donc c'est rejeter cette indépendance que nous avons tous, la voie qui semble droite à un homme, il dit, hein, une voie qui semble bonne ou droite à un homme, mais la fin, c'est la mort. Donc on abandonne tout ça et positivement, on se tourne vers la lumière, vers le salut de Dieu. C'est la sagesse. Et ça nous fait penser à Ésaïe 55, où il dit, venez, achetez, mangez, buvez, sans argent même, mais venez, que l'homme méchant abandonne ses voies, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut qu'il tourne vers Dieu, c'est en relation toujours avec Dieu. Donc, pour avoir la sagesse en 2021, il faut s'exposer à la lumière. Hein, si on garde la porte de la tente fermée, il n'y aura pas de lumière. Et il faut travailler cette relation avec Dieu, hein, par la lecture, par la prière, etc. La crainte et la connaissance de Dieu. Et puis, il faut troisièmement je pense que c'est le mot discipline, mais ça ne commence pas avec R. Je pense qu'il y a plein de mots. Je dis, mais il faut un mot qui cherche. J'ai cherché dans le dictionnaire. J'ai trouvé le mot résolution. Il faut une résolution ferme. Une résolution, c'est l'attitude d'une personne résolue, hein, mais c'est la fermeté de caractère. J'aime bien cette définition. Une fermeté de caractère. Faire quelque chose avec résolution, c'est faire énergiquement ou fermement. Il avait accepté avec résolution la mission dont on le chargeait. Et être résolu, c'est déterminé, ferme dans ses décisions. La Bible dit en Jacques, en parlant encore de la sagesse au début, attention, cet homme qui est double pensée, littéralement. Et cet homme qui est double pensée, il est instable dans toutes ses voies. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas résolu. Dans les maths, on travaille jusqu'à arriver à la résolution du problème. Et quand on y est, On y est, c'est fait. Et l'homme résolu, c'est ça. Il a fait l'équation, il a fait les maths, il a jugé entre la voie du mal et la voie du bien, et il est arrivé jusqu'à la somme. Il a dit, voilà, ma résolution, c'est fait, j'ai plus besoin de calculer, ma décision est prise. Notez ce qu'il dit au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme un trésor, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. On voit tout sauf l'indifférence ici, on est d'accord? Il n'y va pas à demi-vitesse. Il n'est pas comme Élie disait des Juifs de son jour, qu'il boitait entre deux. Est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est l'Éternel? Pas cette personne-là. Une personne comme ça ne va jamais trouver la sagesse. Même leur pensée va être tordue, parce qu'ils acceptent la philosophie du monde et puis ils essayent de lire la Bible et c'est, voilà, tout est en fait mélangé dans leur tête. Quelle tristesse. Il y a des jeunes qui entrent dans la vie, vont faire prendre des décisions qui vont avoir des effets sur le reste de leur vie et ils ont cette pensée mêlée. Et lui, il dit non, il faut que tu sois dévoué. La sagesse est pour celui qui est humblement désireux. On pourrait presque dire pour l'amant de la sagesse. Et c'est même l'image qu'ils ont donnée avec ces deux femmes. La femme folie et la femme sage, la femme de la sagesse. Et en fait, il dit à son fils, tu dois aimer la femme de la sagesse. Tu dois toquer, frapper toujours à ses portes. Tous les jours, devant ses portes, il faut que tu cherches comme un trésor. Mais ce n'est pas pour l'homme qui est sage à ses propres yeux. On a lu ça, dans chapitre 3. Ne sois point sage à tes propres yeux. Et on se rappelle tous les disputes que nous avons eues avec nos parents. Rappelez-vous des disputes que vous avez eues avec vos parents ? Dans chacune de ces disputes, c'est qui avait raison? C'est bien sûr vous, non? Ben sinon, on ne se disputerait pas. Toujours. On est toujours sage, naturellement sage, à nos propres yeux. On dit, ok, il faut s'humilier. Il ne faut pas se confier à notre sagesse, mais il faut ardemment chercher la sagesse de Dieu. Cet homme, il pense qu'il est arrivé. Il est là déjà, il sait. Et quand nous pensons que nous sommes arrivés, nous n'allons jamais plus loin, n'est-ce pas? Si je suis déjà arrivé à la destination, pourquoi prendre la route? Donc si un gamin de 5 ans, il pense qu'il a, il a tout. Bon, j'ai pas besoin de l'école. C'est vraiment la pensée, J'ai pas besoin de l'école, la vie va bien. J'ai pas besoin de faire mes devoirs. Donc, pourquoi le faire? Il faut le convaincre qu'il a besoin, en fait, de plus pour qu'il désire le chercher. Et dans ce sens, nous sommes trop souvent satisfaits de nous-mêmes. Ah non, je connais assez bien la Bible. Ah, je connais assez bien les voies de Dieu. Moi, je pense que je sais ce que Dieu veut. Et puis, des choses arrivent dans nos vies et on démontre qu'en fait, on n'a pas de sagesse. Je pensais à ça, que parfois Dieu amène exprès des problèmes dans nos vies pour que nous démontrions à nous-mêmes notre manque de sagesse. Pour que nous puissions... C'est vrai, j'ai gâché là. J'ai vraiment raté la chose. Mais j'étais tellement sûr que j'avais la sagesse au début. Il vaut mieux être humble auparavant que devoir après se trouver... Face sur terre, humilié. Mon père me disait, ce n'est que les orgueilleux qui sont humiliés. Les humbles, ils sont déjà humbles. Donc, son problème n'est pas intellectuel, hein. Ce n'est pas qu'il est dépourvu de connaissances. La Bible va même dire qu'il y a plus d'espoir pour un fou que pour lui, hein, qui est le fou moralement, qui est l'insensé, que pour l'insensé. C'est qu'il ne veut pas sérieusement devenir une meilleure personne. Et alors que le sage, il est toujours en train de recevoir la sagesse. La Bible dit qu'un enfant sage reçoit les corrections de ses parents. Qu'on peut blesser un homme sage et il nous aimera encore plus. Ça, c'est la sagesse se démontre dans cette quête de toujours avoir plus. Toujours recevoir des autres de la sagesse. Pas toujours donner. Pensez à nos conversations. Est-ce que nous sommes toujours en train de... est-ce que nous sommes, vous savez, les bouches incendies là? Est-ce que nous sommes que des bouches incendies de sagesse? On a la sagesse pour tout le monde. Voilà, venez à moi, je vous donnerai de la sagesse. Donc j'ai la sagesse, tout le monde à la maison, tout le monde est... Voilà, partout, c'est moi qui donne mon avis. Peut-être il faut se regarder un peu dans le miroir et dire, est-ce que je cherche la sagesse? Même quelqu'un de plus jeune que moi, je peux, même de mes enfants, je peux apprendre des choses. Je peux croître moi-même dans la sagesse. Et donc il dit, revenons sur ces versets, tu reçois mes paroles, tu gardes avec toi mes préceptes, donc il écoute. Verset 2, c'est son cœur même qui est incliné, donc il y a ce grand désir. Puis verset 3, il appelle, vous voyez, il élève la voix. Ça c'est la prière, il demande. Jacques va dire, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et Jacques aussi va dire, si quelqu'un manque de la sagesse, quoi? Ben qu'il demande à Dieu. Mais même quand Dieu donne, ça ne sera pas automatique, hein, ça viendra comme ça, en vraiment la cherchant. Mais une chose qui est nécessaire, c'est de demander, pas présumer que vous l'avez déjà. Demandez la sagesse. Et puis, verset 4, il met tous ses efforts. Il cherche comme l'argent, il poursuit comme un trésor. Vous avez vu ces chasses au trésor et l'énergie que les gens donnent pour voyager, pour chercher, parce qu'ils veulent un trésor. La sagesse est un trésor pour ceux qui le cherchent. Dieu ne donne pas comme ça gratuitement. Ce n'est pas des bagatelles qu'il faut aller chercher. Et puis donc, si vous faites ça, verset 5, vous trouverez cette relation où il y a la crainte et la connaissance. Les deux aspects de cette relation avec Dieu. Ok, sans regarder, quels sont ces donc trois mots? Le premier mot, c'est la révélation. Il faut s'exposer à la révélation divine, qui est la Bible. Deuxième mot, c'est quoi? Relation. Il faut marcher avec Dieu. Et puis, troisième mot, c'est quoi? Voilà, résolution. Il faut aller de tout cœur. Et puis, Dieu veut bien nous donner la sagesse. Voilà, la semaine prochaine, j'aurai d'autres annonces concernant notre temps d'étude. On espère, en février, commencer une étude sur le livre d'Esther. Donc, je crois que ça va être très intéressant et très édifiant.